accaparer le pouvoir pour eux au détriment des individus. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils ne trouvaient pas leur compte dans le pouvoir établi. Donc, ce pouvoir-là, il était trahi. Ils ont trahi le pouvoir. Ils n'ont pas utilisé le pouvoir au bénéfice du peuple. Du peuple, quand on dit du peuple, c'est pas quelque chose d'indéfini. C'est chaque individu doit y trouver son compte. Et ça, ça a mené à la destruction du temple. C'est ça. Donc, la nation juive, elle a été disloquée. Parce que, justement, l'intérêt de chacun n'a pas été réalisé. Regarde, dans la Mishnah, on lit une Mishnah dans les Pirkei Avot cette semaine. C'est très intéressant. Regardez, il y a marqué, Rabbi Hanan ben Teradion, il dit, s'il y a deux qui sont assis et qui n'échangent pas, ben, ben, divrei Torah, il n'y a pas entre divrei Torah, ça s'appelle Moshe Ableti. Ça s'appelle une réunion de frivoles, de moqueurs. Alors, il apporte un passouk. Il a marqué Moshe Ableti, Moshe Ableti, un passouk dans Télim au début de Télim. Quand je vois Khou, il ne s'assoit pas dans Moshe Ableti. C'est-à-dire qu'il dit, cette tzaddik-là, Ashkayi, Shachalo, Alar, Be'atzat, Pesha'im, ou Be'dere Hatem, Lahamad, Moshe Ableti, Moshe Ableti. Donc, il ne s'est pas assis avec les Letim. A priori, on ne voit pas le rapport entre parler, il ne parle pas, entre eux, il ne parle pas, il ne parle pas de divrei Torah, il ne parle de rien. On le qualifie de Moshe Ableti. Après, la Mishnah, elle dit, Aval Shnaim, Shioshvim, Viesh Benem, divrei Torah. Mais il y a deux qui sont assis et qui parlent entre eux de divrei Torah, alors là, le passage qui dit Shechina, Sherouya, Imahem. La Shechina, elle est entre eux. Elle est assise, elle s'installe entre eux, comme il amène un passage dans Malachi, Aznit Beru, etc. Donc on voit ici quelque chose de très important, que quand il y a la relation humaine, elle est établie, quand cette relation-là, elle se fait dans la Kedusha, divrei Torah, alors on fait une place à la Shechina, l'échange, le concept de l'échange, il fait en sorte qu'on fait une place. C'est-à-dire qu'on fait une place, ça veut dire qu'en vérité, on est en train d'être mekim à Shechina. Quand on dit on fait une place à la Shechina, on fait venir la Shechina. La Shechina, les hakim, c'est-à-dire la Shechina, imaginons, elle est symbolisée, on imagine la Shechina comme étant une reine. Qui a été bannie, elle est tombée en disgrâce, elle est assise, au lieu d'être assise sur son trône dans le palais, etc., avec des habits de royaux, elle est assise dans des quenilles, elle est assise par terre, etc. Donc la Shekhina, elle est délaissée, méprisée, maltraitée, etc. On peut utiliser tout le discours de De Gaulle quand il a dit que à la libération de Paris, la France méprisée, martyrisée, etc. On peut dire tous ces mots-là, tous ces adjectifs-là que De Gaulle a employés pour la France pendant l'occupation, et tu le mets sur la Shekhina, et encore, c'est pas assez. Quand je fais divrei Torah, veillez, je ben et aime divrei Torah, alors tu fais Shekhina, imaïm. La Shekhina vient s'associer à eux. Ça veut dire qu'il y a une place, il y a ici une place qui est faite à la Shekhina. Et la Shekhina, c'est le divrei Torah. Donc, l'aimer, c'est pas simple de divrei Torah, c'est divrei Torah échangé. Il y a un qui dit, il y a un qui répond, échangé. C'est quoi le mot échangé aussi? Il faut comprendre. Yesh Benehem divrei Torah. Ça veut dire Yesh Benehem divrei Torah, qui fait un cours et les autres, ils écoutent? Non, c'est pas un cours. C'est qu'il discute de divrei Torah. Et là, il dit quelque chose, il le contredit. L'autre, il lui pose une couche, l'autre, il y a un échange, c'est de la discussion, de la confrontation, c'est du pile-poule des deux, l'échange. C'est pas comme il a dit, Rabbi Hanan, les Rechakishim, les morts, alors ils ont apporté un, et lui disait, chaque fois qu'il dit quelque chose, il dit, tu as raison. Il a dit, c'est encore l'intérêt. Il dit, chaque fois que je dis quelque chose, il me pose une couche. Et de la couche, je suis Mehadel, je dis un tirou. Cet échange, les deux ils sont à égalité, ça apporte, ça fait la place de la Shekhina. C'est ça le concept de la Shekhina. Ça veut dire que les individus, dans leurs différences, chacun, Keshem Shepartsoufehem Shonim, Kar Deotehem Shonim, chacun dans sa différence, dans sa appréciation des choses, etc., selon ses qualités, sa personnalité, il échange avec l'autre, quelle que soit la vie de l'autre. Il n'est pas d'accord, mais j'échange. Ça veut dire qu'il y a cet échange-là, ça crée un lien. ça crée un lien. Donc, c'est un exemple. Ici, la Mishnah, elle donne un exemple intéressant. Que l'échange, il crée ce lien. C'est important, très important, cette notion-là, d'échanger à égalité. Ça veut dire, c'est bien d'échanger, parce que ça rentre aussi dans le concept de la nation. C'est-à-dire que si on est pour tous ceux qui nous... J'aime tous ceux qui sont comme moi. Alors moi, je suis religieux, je suis de telle obédience, je suis comme ça, alors j'aime super bien les gens qui me ressemblent, qui sont de mon obédience. J'aime aussi, bon, un peu moins, mais je les aime aussi, les religieux, les ceux qui sont différents, les chassidim, les machins, ils sont, moi, je suis pas chassid, mais tous ceux qui font la Torah, je les aime. Maintenant, ceux qui font pas la Torah, ils disent, je les aime moins. Je les aime pas, peut-être, je sais pas. Et ceux qui sont hélonimes, etc., qui sont, alors les Russes, ah, c'est pas, ils sont pas, nous, on est du paradis. Et les autres, on, tout ça, c'est une erreur. Ça veut dire que celui qui fait chesed avec son espèce, alors tu fais chesed avec ton espèce, tu t'aimes à toi-même, tu n'aimes pas les autres, tu n'aimes pas la différence. Il faut aimer ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, c'est-à-dire l'amour. On va arriver à définir c'est quoi l'amour, mais en tout cas, il faut arriver à faire une place, à entendre, à comprendre, à laisser une place à celui qui est complètement à l'ouest, à l'opposé de moi. Dans toutes les... Et c'est ça l'échange. C'est ça l'idée de faire une place. Parce que sinon, c'est la hassida, le, je sais pas comment on appelle ça, le héron. Il s'est appelé hassida, mais pourquoi c'est une béma, c'est un oiseau qui est tamé? Parce qu'il fait le hesed avec ceux qui lui ressemblent. Et ça, c'est pas bon. D'ailleurs, le hesed, c'est pas terrible comme terme. Hesed, ça veut dire la honte. C'est-à-dire, quand on fait hesed à quelqu'un, on lui fait honte. Comme il dit, Rama Mipano, en page de garde de son livre, Yonatilem, où il fait un condensé, il fait un grand développement sur toute le conscient kabbalistique, il ramène ça. Il dit, c'est que ça veut dire quoi? Hesed, Hesed Milachan, Hivar, il fait honte. Comme marqué, dans la paracha, Shemini, je crois, je me rappelle quelle paracha, je crois, est mort Shemini, je ne sais plus. Il y a marqué, tu n'as pas le droit de te marier, de dévoiler la nudité de ta sœur. L'autre égalé, avant de rentrer l'autre égalé, qui hesed ou? Parce que c'est hesed. Hesed, ça veut dire honte, c'est honteux, ça ne sait pas, c'est quoi, il va avec sa sœur. Et Rachid dit, il dit hesed, mais quel rapport hesed? Il dit parce que au début de la création, Hevel et Caïn, avec qui se sont mariés? Ils se sont mariés avec leur sœur. Alors, est-ce que je t'ai permis au début que tu te maries avec ta sœur? C'était pour permettre que le monde il se remplisse. Mais en vérité, c'est un truc qu'il ne faut pas faire. C'est pas joli. Alors, c'est Hesed. Hesed que j'ai permis au début parce que je n'avais pas le choix. C'est comme ça, comment on va faire pour remplir le monde? Alors, mais aujourd'hui, elle départ, il y a d'autres parts. Ta sœur, tu n'as pas le droit de la toucher. Tu n'as même pas le droit d'y penser, etc. C'est Hesed. Donc, on voit que le mot Hesed, c'est quelque chose qui fait honte. D'ailleurs, quand tu tends la main avec une pièce et tu fais hesed à un pauvre qui tend la main, le pauvre, il est gêné. Le fait que je tende la main pour donner, ça signifie déjà qu'il y a quelqu'un qui va recevoir. Et que s'il reçoit, c'est que vraiment, il est pas bien. S'il est obligé de recevoir, d'accepter de recevoir la tzedaka, c'est pas bien. Il préfère le type de lui un travail qu'il est l'honorable, le kavod de gagner sa vie honorablement. Donc le hesed, ça cache quelque part ce qu'on appelle ne'ama de kisufa, le pain de la honte. Et ça, c'est pas terrible. Il y a mieux que ça, c'est de donner à l'homme la possibilité d'être. Alors quand on fait hesed, le mot hesed, ça ne veut pas dire charité, ça veut dire faire le tzedek. Ça veut dire quand on échange avec quelqu'un qui n'est pas d'accord, ça ne sert à rien d'échanger avec quelqu'un qui va te dire, comme il a dit Rabbi Hanan, tu échanges avec quelqu'un qui est d'accord avec toi, alors tu m'apportes rien. Tu me dis, Tana de Messé Alar, chaque fois qu'il lui dit quelque chose, il lui dit, je t'apporte 24 preuves, et alors il dit, si ça ne m'intéresse pas, je veux que tu m'apportes des objections. L'intérêt de discuter, l'intérêt d'échanger, c'est quand il y a opposition et contradiction. S'il y a contradiction, alors il y a un intérêt quelconque, c'est de l'échange. Pourquoi? C'est fondamental, c'est extraordinaire. Parce que, au début des Pirkei Avot, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué, et vous, et Mamou, Shlosha Dvarim, ils ont dit, les anciens Knesset et Gdola, ils ont dit trois choses. Et vous, Metounim Bati. Et soyez circonspect dans le jugement. Soyez, c'est-à-dire, prends le temps de réfléchir. Dans le jugement, il ne faut pas faire le carré, la loi carrée absolue, le bon droit. Il n'applique pas la loi carrée, dure, intransigeante, droite comme le tzedek droit, yachar. Fais arrondir un peu les angles. Pourquoi? Il dit parce que tout le concept du din, il est de la douceur. Alors, si tu as une réflexion intellectuelle, c'est pas seulement quand on juge quelqu'un, c'est sur toutes les discussions qu'on peut avoir. On discute de n'importe quoi. Alors, on donne son avis. Alors, c'est ça qu'il dit. Je vais donner mon avis sur telle ou telle autre chose. Est-ce que j'accepte de la contradiction? Est-ce que j'accepte de mettre de l'eau dans mon vin, de corriger, d'aménager, de revoir ma copie, de changer mon appréciation, de me tromper? C'est ça le concept de l'échange. Parce qu'elle arrive, et vous, métonyme, soyez circonspect, c'est-à-dire apprends à mettre de l'eau dans ton vin, dans la conception des choses. Sinon, ça devient du totalitarisme. C'est-à-dire que quelqu'un, il devient totalitaire, il pense qu'il détient uniquement lui la vérité. Et ça, il peut tomber au nom de la vérité du Hémet, il devient un tortionnaire. Donc, il va imposer son avis aux autres, c'est un fasciste. Et la Torah, elle veut pas qu'on soit de cette qualité, qu'on applique cette mida. Elle veut au contraire, Olam Chesed Ibané. Olam Chesed Ibané. Ça veut dire quoi, Ibané? Le Chesed, il se construit. Le Chesed, c'est pas uniquement ce que tu crois, toi, être. Le Chesed, il est peut-être que tu as une approche trop extrémiste du Chesed, ou pas juste, ou erronée. Tu dois entendre ce que l'autre dit pour aménager, pour corriger, pour apporter, pour nuancer, etc. Ça, c'est ça la Shekhina. C'est ça ce qui a marqué ici. Shnaim, Sheyoshvim, Yesh, Benem, Divretom. Yesh, Benem, Divretom. Benem, c'est dans les deux sens. Comme je dis, Yesh, Benem, Divretom. Are, Shekhina, Sheroya. La Shekhina, elle réside avec eux. Parce que c'est ça la place de la Shekhina. Parce que la Shekhina, c'est que la lutte à Israël. Et on fait une place à la nation juive. La nation juive, c'est de cet ordre-là. Savoir aménager, savoir comment satisfaire tout le monde. Ça aussi, c'est le travers dans lequel ils sont tombés, Talmidé de Rabbi Akiva, qui a marqué la balonag ou kavod zelazé. Ça veut dire, bon, il faut arriver à comprendre exactement de quoi il s'agit. C'est-à-dire, bon, ils n'ont pas eu une oreille. Ils n'étaient pas prêts à entendre ce que l'autre dit. Ils n'étaient pas, c'est-à-dire, il veut lui dire des vrais Torah, il dit, moi je connais déjà. Bon, c'est pas juste que je dis, c'est du n'importe quoi. Et il n'est pas prêt à entendre. Il n'est pas prêt à entendre l'autre. Et ça, c'est la catastrophe. Alors, en cela, je vais dire une écouda. Une écouda, qui est l'une, ça peut être une richesse, mais ça peut être aussi une erreur. Un travers dans en Israël, qu'il y a des courants. Alors, si on, je vais pas citer de nom parce qu'après on va me reprocher. Mais il y a des courants. Il y a des courants, il y a des grands maîtres qui ont créé des grands courants dans l'histoire. Et jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup de courants. Enfin, de Shitot. Alors, tiens, tel. Alors, ils lisent que leurs bouquins. Que les livres de Torah qui viennent de leur courant. Les autres, ils disent que le courant, etc. Donc, c'est une erreur. Alors, on va prendre le rav de tel courant. Ah, les gens, les adhérents, les hassidim de ce courant-là, ils vont dire, c'est ça le tzaddik. C'est ça le derrière. C'est que ça. C'est uniquement ça. Pratiquement, c'est ça, uniquement ça. Donc, ils se sont coupés, il y a une relation entre eux, mais la relation vis-à-vis des autres, c'est-à-dire le fait d'être dans une tradition et d'être dans une formule, une forme ou une facette de, de la pratique, de la conception, selon un certain derrière, il me coupe des autres. Je vais pas accepter facilement la vie d'autres. C'est un peu sectaire. Ça pose problème. Là, je parle déjà seulement que dans la Torah, mais on peut voir aussi dans la politique, dans les courants politiques, etc. Quand tu vois la société, quand tu vois, même il y a une aberration terrible. J'ai jamais compris cette histoire-là. Je me rappelle, ça c'était Stam, une idée. Je me rappelle quand on était jeune. Alors dans les années 70, il y avait un office. Apparemment, ça c'est avec un seul office. C'était le grand office de synagogue. Après, il y a eu un monsieur qui est venu, qui a fait un deuxième office. Je me rappelle, monsieur Zarka, c'était un Tunisien. Il est venu, c'est lui qui a commencé le premier à faire. Dans l'office des super jeunes d'aujourd'hui, il a commencé à faire un office, l'office tunisien. Il a pris le Tunisien. Bon, pourquoi il a fait l'office en vérité? Parce qu'il n'y avait pas assez de place dans la grande synagogue, il a fait l'office. Après, il y a eu la construction, ils sont montés au premier. Après, les Marocains, ils sont venus un peu plus tard et ils ont fait un autre office. Alors maintenant, c'est quoi les offices? L'office des Algériens, l'office des Tunisiens, l'office des Marocains, l'office de tel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est une bêtise. C'est-à-dire qu'on se rattache à nos racines, donc on se distingue des autres. Bon, ça, c'est un exemple, mais c'est une démarche qui est louée dans le clan Israël global. Alors nous, on est de Tunisie, les autres, ils sont d'Algérie. Et en Algérie, ils vont faire des différences entre les différentes villes et on ne va plus en finir. C'est-à-dire qu'on va essayer de s'assembler selon l'affinité d'origine. Ça veut dire quoi? Quel est le sens de tout ça? Et ça, c'est une taout. J'ai jamais compris cette histoire-là. Quelle différence tu fais la prière là ou là? Bon, après, ça s'est un peu mélangé. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça reste. On remarque que ça reste jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ça? Pourquoi on se fonde pas? Tous les Sfaradim, ils font la même chose-là. Qu'est-ce que ça peut faire? Alors, une fois, on va faire un air marocain. Une fois, on va faire un air tunisien. On va mélanger les airs. Et d'ailleurs, dans les synagogues, où il n'y a pas suffisamment de monde pour faire 10 offices, alors ils font une grande synagogue où il y a tout. Alors une fois c'est là, une fois c'est là, et ça. Et donc c'est l'échange. Et ça, c'est une idée. C'est-à-dire que c'est dans la nature humaine, mais sur l'histoire des synagogues, ça peut être grave, ça peut faire des histoires, mais typiquement, l'office marocain, il fait un air algérien, ils vont le plier, ils vont pas être contents, ou à l'inverse, peu importe. C'est tout ça, c'est des bêtises. Et ça, l'erreur. C'est-à-dire qu'on ne doit pas, s'attacher à ça. On doit l'échange. C'est-à-dire, en vérité, les individus, ils doivent apprendre la flexibilité et arriver à se modeler et à changer et à se transformer continuellement. En quoi ça dérange telle ou telle autre chose? Ça ne dérange pas. Et la même chose dans l'ashkafa, des chitotes. Les chitotes, on s'attache à des vérités qui ne semblent pas être des vérités absolues, mais on a besoin les gens, ils ont besoin de ça et ils s'attachent à des branches, qui sont erronées. Et ça crée des mouvements. Au lieu de que ces mouvements-là, ils s'échangent, chacun figé dans son système. Et si on élargit ça encore plus, on va voir que il y a Israël aujourd'hui sur Mahasmaout. Moi, je souhaite à Israël, à l'État d'Israël, à la société israélienne, qu'il dépasse la situation dans laquelle ils sont. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'il y a un parti pour les religieux orientaux, un parti pour les religieux occidentaux, un parti pour les religieux sioniste, un parti pour les religieux. Chacun, il fait son parti selon sa paroisse. Les Russes, les Témanis, venez, on fait un parti de Français, et venez, on va faire un parti d'origine américaine, etc. On ne va plus en finir. Au lieu que la politique, elle soit une politique, un choix politique selon des objectifs, selon des idéaux, on fait selon les origines. Ça n'a pas de sens. Et ça reste quelque chose de négatif. Pour moi, c'est quelque chose de tout à fait négatif. Parce que si tu vas élire quelqu'un en tant que à la direction du peuple, il doit être élu non pas parce qu'il est religieux ou pas religieux, il doit être élu parce qu'il va procurer, il va être efficace dans son activité économique et sociale et il va apporter quelque chose. Alors j'ai des idées par rapport à la direction. Ah, mais non, là on a réduit. On a réduit. Chacun, il va défendre sa paroisse. Moi, l'autre, là, il est russe, alors il veut défendre les Russes. L'autre, il est noir, il défend les falachas. L'autre, il est français, il va défendre les Français. Ça n'a aucun sens. Un, il est religieux, il défend les religieux. C'est pas ça. C'est la société, elle doit, le Ham Israël, il est pas ça. Le Ham Israël, il est une globalité d'individus, de tendances. C'est la multitude, la diversité. Et Yoshivim, Beyesh, Benehem, Divretora. Yesh, Benehem, Divretora. C'est qu'il y a l'échange. Il y a la confrontation des idées. Il y a, et chacun, il va y trouver son compte. C'est-à-dire que comment un homme, il existe. Il existe, chacun a besoin de reconnaissance. Chacun, c'est-à-dire que, marqué dans les Sfarim à Kedoshim, et j'ai entendu plusieurs fois, Rav Moshe, il a dit ça des dizaines de fois, que si, au nom des Rishonim, il dit que si, par exemple, un individu, on lui enlève tout le kavod, tout complètement, c'est-à-dire qu'on lui enlève, il n'y a plus aucun kavod de rien, et alors il dit, il meurt à la makom. Au nom des Rishonim, c'est-à-dire que quelqu'un, on lui enlève tout le c'est-à-dire le kavod, on cherche la reconnaissance, d'être reconnu, d'avoir du respect, que les autres nous fassent une place, nous reconnaissent, nous fassent du kavod, etc. C'est quoi ça? C'est mitzad, la vie. Mitzad, parce que souvent, il ramène dans la Hagdama du Ba'al HaMahor, Rabbi Zecharia Lévi, le Ba'al HaMahor, là-bas dans l'Hagdama, au début, il dit kavod, c'est quoi kavod? C'est nefesh asichli. Il dit la neshama, nefesh asichli, il s'appelle kavod. Et si quelqu'un, on lui enlève tout le kavod possible, imaginez, il meurt. Il meurt à la macombe, il n'a plus de raison d'être. La vie, on lui a retiré la vie. Donc, on a besoin chacun de kavod. Ça veut dire, le kavod, c'est dire trouver son épanouissement, la reconnaissance, savoir se faire une place. Chacun. La Mishnah dit, Elecha Adam, Shen Lo Sha'a, Elecha Davar, Shen Lo Makom. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas son heure, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un objet qui n'a pas sa place, etc. Ça veut dire que nous tous, nous devons trouver notre place. Mais trouver notre place où? On doit trouver notre place dans la nation. Chacun, il doit trouver sa place dans la nation juive. Et c'est ça l'idée qu'on doit réviser. Comment faire la place? Alors, on fait la place à chacun, mais quand on fait la place à chacun, comment le premier qui prend la place, il ne fait pas de l'ombre à celui qui est à côté de lui? Et ça, c'est toute la chokma de la Torah. Il y a marqué que Kadosh Baruch Hu dans la création, comme il explique le Ramchal au début de la Dirba Maram, il dit le Shem de la création, c'est El Shaddai. El Shaddai, je crois que j'ai déjà expliqué ça, mais Shaddai, ça veut dire Shamar le Olamo Dai. C'est-à-dire que chacun, il a une place. Il a placé les éléments de la création. Maintenant, quand il crée les éléments, El, c'est la puissance créative qui est infinie. Alors, si tu dis qu'on va créer de l'eau, alors on crée l'eau, elle envahit tout. Elle s'arrête pas d'envahir. C'est la puissance créative de l'eau. L'eau, elle est là. Elle prend toute la place. Alors, il faut lui mettre une limite. Alors, il vient, Shaddai, il dit stop. L'eau, tu arrives jusque là. Et là, va commencer la terre. La terre aussi, tu crées la terre, alors il va envahir les mers. Alors, dis non, tu mets une terre. Donc, tu places chaque élément de la création selon son domaine. Sur son domaine de compétences. Et là, il va agir, mais comme un orchestre. Vous mettez un philharmonique, mettez Arte, vous voyez comment ça marche, un super orchestre philharmonique, il y a 200 musiciens. Alors, il y a toutes sortes d'instruments, toutes sortes de partitions, et chacun, si tout le monde se fait en même temps, c'est une cacophonie. Alors, chacun à son tour, chacun à sa place. Chacun vient intervenir pour que tout le un sans l'autre, ça marche pas. Donc c'est tout le système, il va aider. Mais quand c'est le piano qui joue, alors on écoute le piano. Quand c'est le violon, c'est le violon. Donc c'est chacun son tour ou les uns un peu avec les autres, mais c'est pas une cacophonie. C'est de sorte qu'on fait une place à chacun, de sorte que ce soit agréable, que ce soit harmonieux, qu'il y ait une réussite dans ça. Et c'est la même chose pour l'ensemble de la société. J'ai déjà dit que dans la société, dans la situation que nous vivons, on s'est aperçu soudainement que l'éboueur, c'est un homme important, que le transporteur, il est d'une importance capitale, que la petite infirmière, ah, s'il n'y avait pas les infirmiers, qu'est-ce qu'on ferait, etc. C'est-à-dire qu'on a, on a compris, on a, enfin, on a compris, on savait, mais on a, ça a été souligné, c'est sorti en grosses lettres, c'est-à-dire en gras, c'est gravé, que les gens, les quidam, qui n'ont aucune importance. Alors, oui, chacun a une importance capitale. Chacun participe au bien-être de l'ensemble de la société. Et ça, c'est fondamental dans cette Mishnah-là. Qu'est-ce que la Mishnah nous dit? Veyesh b'nehem divrei Torah, shechina sheruya imayim. C'est un concept fondamental, essentiel. Alors, si on reprend le système du temple. Alors, c'est quoi? J'ai déjà dit plusieurs reprises que le monde, c'est un olam, olam agadol. L'homme, c'est un microcosme, c'est un olam katan. Le Beth Amikdash, c'est, comme il dit, Betzalel, Yada, Betzalel, Etzare, Faotiot, Shebaem, Nivreu, Shamaim, Baaretz. Betzalel, il savait composer les lettres par lesquelles Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre. Ça veut dire que dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, il y a tous les éléments de la création et que, en les composant, en composant les lettres et en les formant, il fait une place à chaque élément spécifique. Et de tout ça, il sort un corps harmonieux, un ensemble harmonieux, une trame, et on a tissé quelque chose d'extraordinaire qui est le monde, ce microcosme qui est. C'est un olam, Bifne Atzmo, qui est le Beth Amikdash. Et la Torah et la lecture de tout ça, c'est-à-dire quel est le livre référence par lequel on crée le monde, Akash Bokhu, il a créé le monde, c'est la Torah. Il a regardé, il a médité, il a contemplé la Torah, il a créé le monde. Donc dans la Torah aussi, il dit Maharam Galanti, que la Torah aussi, c'est un corps, c'est un olam, et là-bas, il y a des lettres, et là-bas, il y a des mots, des phrases, des psukim, des parashiot, etc. Et tout ça, ça forme un corps. Tout ça, c'est le corps de l'homme avec la neshama, tout ça, c'est formé. C'est un olam malé, et que sinon, on sait lire la Torah, si on sait lire les parashiot, la globalité de la Torah, on va savoir lire le olam, et on va savoir lire le Beth Amikdash, et on va savoir lire le Ben Adam. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir ainsi l'harmonie. Donc, c'est exactement ça, le concept de l'homme, le Olam HaKatan, et de l'autre côté, on a Olam HaGadol, et on a Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est la nation. C'est quoi la nation? Alors, c'est exactement ça. Beth Amikdash, c'est le système de la nation. C'est qu'est-ce qui fait que la nation juive, elle est une nation juive? Donc, on peut lire que juste avant Megillat, juste avant, à la fin des Shoftim, juste avant Sefer Shmuel, il y a marqué qu'il n'y avait pas de névoa, il n'y avait pas la névoa. Il dit, mais névoa. J'en rappelle exactement le passage. Mais deux psukim avant la fin, vers la fin, vers les deux derniers psukim de Shoftim, il n'y a marqué pas de névoa. Et là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Ish, kol, ayashar, ben, avias. Et chacun, il faisait, chaque homme faisait ce qui lui paraissait juste. Chacun, il fait ce qu'il veut en vérité. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a pas de nation. Alors, vient Shmuel à ce moment-là. Donc, c'est ça le concept de Shmuel à Navi. Il vient, c'est ça toute la tefila de Hana. Il vient apporter un Ben Adam, un individu. Un individu étalon, un individu référence, qui va changer les choses. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va établir la nation juive. Et pour établir la nation juive, il faut quoi? Il faut la névoie. Et il faut quoi aussi? Il faut que le Navi nomme un roi. Donc toute la venue, et à partir de là, c'est un nouveau concept. C'est un nouveau monde. Les Bnei Israël, ils étaient pendant je sais pas, quatre siècles, trois siècles et demi, quatre siècles, on les restait chacun sur son autre terre, ils se bagarraient entre eux, chacun faisait ce qu'il voulait. Dans les goyim, ils venaient les embêter, il y avait un chauffeur qui venait les défendre, etc. Mais c'était des situations temporaires et bien déterminées dans un endroit spécifique. Shimshon, c'était à tel endroit. Shamgar, c'était à un autre endroit. Chacun à son endroit. Mais il n'y avait rien qui englobait, qui faisait une solidarité, qui faisait une nation organisée de toutes les tribus. Celui qui va fabriquer cela, c'est Shmuel qui va nommer le roi et il va fabriquer ça. Et à partir de là, c'est un nouveau concept qui est la royauté. Et la royauté, elle va amener justement le Beit HaMikdash. Et nous allons voir que quand est-ce que c'est que la nation juive va être éparpillée, quand le Beit HaMikdash il va être détruit. C'est ça l'idée qui a marqué ici. C'est ça l'idée de Beit HaMikdash. Donc le Beit HaMikdash en vérité, c'est un cosme, un microcosme, c'est là où le microcosme, l'individu, il va trouver sa référence dans le cosme, l'immensité du monde, de la création immense de la Kadosh Baruch Hu. Comment il va trouver ce lien? C'est le Beit HaMikdash. Et c'est la nation juive. C'est ça la nation juive. C'est ça le concept de la nation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire le minyan? Il dit, il y a dans Rabbi Moshe Cordobero, au début du livre, il explique à la cinquième Mida, je crois, il explique ce concept que tout Israël, ils sont appelés Sheher Amo. Et que Akash Bokho, il a un lien. Que puis-je faire de Am Israël? Voilà, ils sont appelés, Akash Bokho, il dit, ils sont appelés comme ma chair. On a une relation, style, une relation charnelle avec Akash Bokho. Il dit, ils sont point et partie de moi. Et là-bas, il explique, et le domé. Là-bas, il explique à Gav, mais il développe. Qu'est-ce que ça veut dire le minyan? Alors, il y a des individus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et quand il vient le dixième, alors ça change la dimension. Alors, mais qu'est-ce que c'est? Alors là, il faut souligner, je dis toujours, j'ai dit pendant 25 ans, 30 ans, qu'est-ce que c'est le minyan, la Tfila Betzibour? Qu'est-ce que ça veut dire la Tfila Betzibour? Ceux qui ont acheté mon livre, ils ont lu à la fin du Pirou sur la Hamida, j'ai fait quelques pages sur j'ai écrit quelques pages sur la Tfila Betzibour et je ramène l'histoire de Hana. Il dit, qu'est-ce que c'est cette histoire-là de faire la Hazara? Alors, qu'est-ce que c'est la Tfila Betzibour? Alors, quand on est 10, alors là, actuellement, on prie seul. Et on va à la synagogue, on prie 10. Alors, quelle différence il y a? On fait la prière, la même Amidala. Il dit, quand tu pries Betzibour, alors il y a marqué, qui est le Kabir Lohimas? La puissance de 10. Elle est la force du Tzibour, c'est que Jochou, il ne méprise pas la prière du public. Il prie la prière de la nation. Rav Moshe, il dit souvent que le minyan, c'est la reconduction de la nation juive. D'accord? C'est pour un temps, on rentre à la synagogue. Nous, on n'est pas une nation, on est des individus. Même en Israël, on n'est pas une nation. C'est bon, un style nation, mais c'est pas la nation juive. C'est l'État d'Israël avec toutes ses qualités, ses défauts, mais c'est pas ça qu'on appelle la nation juive. La nation juive, elle n'est pas comme Israël, elle est multiple, etc. Donc c'est un autre système. Donc on n'est pas la nation, on est des individus. Alors mais comment on se retrouve? Comment on fait? Alors on fait un minyan. Quand on rentre au minyan, il y a 10, on dit qu'il y a 10, la nation juive, elle est reconstituée. Pourquoi? Pour un temps. Trois quarts d'heure, une heure, on fait la prière, on s'en va, mais pendant trois quarts d'heure, une heure, on a rétabli la nation juive. Après, on va, on sort, c'est fini. Après, on revient, on fait Minha, ça revient. C'est pour ça qu'on peut lire la Torah. Pourquoi on lit la Torah? La Torah, c'est un hiyuv du Tzibour. C'est pas une obligation sur chacun. C'est une obligation globale sur le Tzibour. Alors, on reconduit la nation. Mais comment on reconduit la nation? Donc, on est lié? Qu'est-ce que ça veut dire, la Tfila Betzibour? Chacun, il fait, on lit le même sidour, mais chacun, il fait pas la même prière. Un, il fait la prière avec telle intention, l'autre, il fait, chacun, il va réclamer ce qu'il a au fond de son cœur, etc. Et donc, c'est quoi? Alors, est-ce que la tfila betzibour, c'est une prière, c'est un système pour faire que la tfila beyahid, c'est la tfila de yahid, on va dire. Il y a 10 personnages, 10 personnes, qui n'ont aucun rapport entre eux, qui sont là par hasard, qui sont là pas à cause des circonstances. Ils sont là parce qu'il faut faire la prière Betsibo, pour dire Kaddish, pour dire Kiddusha, pour dire Baruchou, on a besoin de tous pour faire Baruchou. Mais quand je prie, moi, je prie ma Amida, moi, je demande ce que, mes trucs à moi, mes besoins à moi. Est-ce que l'autre d'à côté, il pense à lui, à ses problèmes, à ses besoins? Et l'autre, le troisième aussi. Donc chacun, donc en vérité, la tula betzibour, ça ne se résume qu'à une prière, 10 individus qui prient ensemble. C'est juste prier ensemble. Mais c'est pas, où est la tula betzibour? Où est le tibour? Est-ce qu'il y a un qui prie? Est-ce qu'il y a 10 qui prient à l'unisson? Ou il y a 10 qui prient chacun pour soi, ils prient ensemble? C'est contradictoire, mais c'est comme ça. C'est quoi le sens? Alors c'est pour ça qu'on fait la Hazara. La Hazara, il y a un qui prie. Il y a un qui prie, alors qu'est-ce qu'il prie? Il prie pour tout le monde. Oui, mais moi, lui, il prie, il lit le texte. Mais quel kavana il met? Quel kavana il met quand il prie? Alors imaginons, quand on a fait la Hamida, donc, quand on dit la prière, l'essentiel de la prière, c'est la Hamida. Alors quelqu'un, il fait la Hamida, tel bracha, il pense un point A. Mais le gars à côté de lui, au même instant, il pense sur la même bracha, une nekouda B. Et l'autre, une nekouda C. Chacun, il pense autre chose. Maintenant, quand le Hazan, il prie, il répète la Hamida, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que le A, le B, le C, le D, la diversité des intentions de chacun au moment de la Hamida en silence, elles sont englobées tous ensemble, elles se conjuguent dans la tfila du Hazan. Et donc, le Hazan, en vérité, il prie global. Il prie tout. Il y a toutes les kavanot du tibour dans le Yahid qui sont exprimés par la kavana du Hazan. Et c'est ça la tfila betzibour. Ça veut dire qu'on a la relation ici entre l'individu et l'intérêt individuel, l'épanouissement de chacun et l'épanouissement global. Parce que l'épanouissement global, la réussite globale, elle est justement l'épanouissement de chacun. C'est pas la réussite du pouvoir de la nation, c'est pas la réussite d'un roi. Ce n'est pas la réussite de celui qui détient le pouvoir, c'est la réussite de chaque adhérent à ce pouvoir, à chacun qui se retrouve dans le pouvoir, dans la nation. Ça, c'est la kavana qu'il faut avoir dans la Hamida. C'est ça la kavana de la Hamida. Et le Ramak, Cordobero, il dit à Shalom, il dit c'est ça, l'ode on met Me'atim osim et ha-mitzvah, Mirabim osim et ha-mitzvah. Si on fait la mitzvah, on est 5. Et si on est 1000 à faire la mitzvah, c'est pas la même chose. Pourquoi? Alors il explique là-bas, c'est ça le concept du minyan, que chacun, il a, chacun, l'année, c'est quoi la Shekhinah? C'est quoi dire quoi, Shekhinah? C'est quoi la Shekhinah? Le concept de Shekhinah, c'est quoi? C'est quoi la nation avec la Shekhinah? Eh bien, la nation, la Shekhinah, c'est la Neshama dans Israël. La Neshama, c'est la Neshama de chacun d'entre nous, des millions de Juifs qu'il y a dans le monde. C'est chacun de ces millions de Juifs-là, il a une Neshama. Et quand tu prends chaque étincelle de Neshama de chacun, tu fais un grand rassemblement de ces étincelles, ça fait la Shekhinah. C'est ça la Shekhinah. C'est la présence spirituelle qui lie les individus en fait. C'est ça la Neshama. C'est ça la Shekhinah. Donc, il dit, alors, si c'est comme ça, alors dis-moi, je suis en vérité, de par ma Neshama, j'en ai été inconsciemment, je suis lié, je suis attaché, solidaire, attaché aux millions de Juifs qui sont dans ce monde. Tous ces millions de Juifs-là, tu es là, on est là. Je sais pas qui c'est.
On est là, Michel, on est là.
On est là, vous
Ouais,
m'entendez?
bien sûr.
Sais pas, ce qu'il y a un truc là un peu chelou.
Ouais, non, il y a eu du son, ouais, c'est bon. Tout à fait, c'est bon.
Je sais pas pourquoi, parce que mon truc il a disparu là, je sais pas où j'en suis.
maintenant, t'es là, Michel, juste, il y a quelqu'un qui est venu, je crois qu'il y avait un...
mon portable a bougé, ça a dit. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, alors, ma neshama, moi, ben Adam, moi, de par ma neshama, je suis lié aux millions de neshamot qui sont dans l'armée israélienne. Alors, quand on est 10, alors au début, on était 1, 2, 3, 4, 5, quand on arrive à 10, tout d'un coup, il y a le concept de la shekhina qui vient, c'est pas pour la kdusha, etc. Automatiquement, moi, je suis 10. Les 9 autres qui sont là et moi, on est tous liés. Donc, on se conjugue, on se multiplie de manière exponentielle. Donc, les 10, ils sont 100, et les 100, ils sont 1000, etc. Donc, c'est ça l'idée que quand on fait cette démarche-là de s'associer pour le minyan, on va être en multiplié et remultiplié, je sais pas comment on dit, multiplié à sans fin les énergies qui se conjuguent, qui s'amplifient continuellement. C'est les énergies qui sont les nôtres en nous. Quand on fait la prière seul, alors on fait la prière en tant qu'individu. Alors si on est en tant qu'individu, on est relativement un. Mais quand on est inclus dans cette énergie qui se conjugue, évidemment il faut que ça se conjugue, pour que tout le monde aille dans le même sens, qui est, comme il dit Rabbeinu Ha'ari avant la prière, il faut faire le concept de les Avat Israël, il aime l'autre, etc. Mais c'est pas juste des mots. Il ne voit pas. Il faut considérer que je n'ai pas d'existence sans les autres. Et il dit en plus, il dit pas seulement dans la prière. Quand on va faire l'étude, par exemple, quand les Havirim du Hari étaient là, aussi le disait. Vous devez y marquer dans Shara Yehudim, il dit. Vous devez savoir l'amour de l'autre, le souci du bien-être de chacun de vos amis, de vos haverim. C'est-à-dire que un et l'autre, c'est les deux, tous les 10, les 15, on est tous une seule neshama. Ça, la notion, comment moi je m'épanouis à travers l'épanouissement des autres. Ça, c'est ça la force. Multiplier, amplifier, se multiplier sans cesse, c'est la force du klal. Alors, l'union fait la force, c'est ça le concept même. Donc ça, c'est un point qu'il faut arriver à trouver. Maintenant, quand il y a eu le Harban, alors on a changé le système et les individus, ils se sont éparpillés. Quand on s'est éparpillé, alors on est des individus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire, tu vois, que dans toute la Gemara, tout le Talmud, toute la Halakha, c'est de reconstituer les Kehilot. On ne peut pas vivre seul. On ne peut vivre qu'en Kehilot. Donc le problème, c'est là qu'il va apparaître. C'est que les Kehilot, ceux qui vont détenir le pouvoir dans les Kehilot, alors ils ont pas toujours à l'esprit l'intérêt de chacun. Ils ont l'intérêt global de la Kehila, mais ils oublient l'intérêt de chacun. Comment je vais agir pour que l'intérêt général de ma politique de Kehila ou d'organisation ou d'institutions, peu importe, elles sont bénéfiques à chacun, pour le bien de chacun. C'est le pouvoir, c'est ça le pouvoir. Et c'est la fameuse réplique de Rabbi Yoshua ben Hanania quand il a dit à Rabban Gamliel, bon, tout le monde connaît qu'il y a eu une histoire entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua ben Hanania, avec Marat, donc par contre, elle ramène une histoire. Il est rentré, il a dit, lève-toi, j'ai entendu de toi que tu dis telle chose. Alors il a dit, non, je ne dis pas ça, je ne suis pas d'accord. Alors il dit, comment? Et moi j'ai entendu que c'est donc il a laissé debout, et il a voulu l'humilier ou le soumettre, dans le faire, qu'il accepte l'autorité, qu'il ne soit pas rebelle à l'autorité. Après cet épisode-là, et après l'épisode de Yom Kippour, Rabban Gamliel s'est trempé dans Yom Kippour, et Rabbi Yoshua ben Hanania, il lui a dit, tu t'es trompé, c'est pas ce jour-là, c'est le lendemain. Il lui a dit, le jour, c'est un petit pour chez toi, tu viens chez moi, etc. Donc, il est venu. Peu importe. Mais après ça, il y a un autre épisode qui est ramené, que Rabban Gamliel est parti voir Rabbi Yoshua ben Hanania. Et Rabbi Yoshua ben Hanania, c'était un pauvre. Il avait tous les défauts de la femme, enfin, tous les défauts. Il était pauvre, moche, etc. Alors, la fille de César, il lui a dit, comment, Chochman Iflaa, Bekelich Mechoa. Elle a dit, comment la Torah magnifique, elle est, tu mets une Torah magnifique dans un corps aussi moche que ça. D'accord? Alors, il a dit, lui aussi, il lui a répondu intelligemment. Et il lui a dit, ton père, où il met le vin? Il dit, mais dans la cruche. Il dit, mais quand il y a ton père qui met le vin dans les cruches, les cuves en or. Donc, il l'a mis dans les cuves en or. Et quand il est venu lui faire le vin était tourné. Il a dit, qui c'est qui a dit ça? Il a dit, c'est la Biocha Ben Hanan. Tu vois bien que la chokhma, elle doit résider dans le bon vin de qualité. Pour qu'il soit bon, il faut qu'il soit dans un keli mechoua. Donc, il lui a répondu, en quel panique, vous pouvez me lire, c'est la Biocha Ben Hanan. Et il dit, des murs de ta maison, mais qui rebêtera? Oui, Ami, j'ai pas Ami, attends. Il dit, je vois que tu es un charbonnier. Le charbonnier, ça veut dire que c'est un malheureux qui n'a pas quoi manger. C'est-à-dire qu'il est dans un dénuement total. Et lui, il lui a répondu. Rabbi Shimon Hanan n'avait pas la langue dans la poche. Il lui a répondu. Il lui a dit, malheur à la génération, que c'est toi qui gouverne la génération. Oh, il adore, j'ai ta parnasso. Et ça veut dire, tu sais pas la douleur, la souffrance, les difficultés de la vie de tous les Tabiotram. Ne t'occupe pas d'eux. Alors, Rabbi Gamliel, il était installé à Tsipori, je ne sais pas où. Il avait une maison magnifique. Il y a quelques années, ils ont découvert sa maison, quelque chose, une maison de la noblesse romaine, d'abord dans le pouvoir, etc. Il est très riche, Rabbi Gamliel. D'ailleurs, il a perdu la majorité de sa richesse pour donner des pots de vin aux Romains pour qu'ils acceptent d'enterrer les Harouguet Bétard qui sont restés 7 ans. On a amoncelé les cadavres, on a fait des barrières dans les champs. Ils ne voulaient pas encore les enterrer. Rabban Gamliel a dépensé énormément d'argent, de cadeaux, etc. pour les Romains, pour qu'ils acceptent de les enterrer. Donc il a dit, la torche atteint par là. C'est-à-dire qu'il y a ici un conflit entre l'autorité établie des institutions et l'individu. Et l'individu est le chacham. Est-ce que l'institution, elle vient au secours? Elle fait une place à ce chacham-là. Ça, c'est pas n'importe qui. C'est pas venir donner de la tzedaka, le problème. C'est pas venir donner de la tzedaka. Est-ce que Rabbi Yoshua ben Hanania, qui est un des plus grands Tanaïm, est-ce que, comment ça se fait qu'on ne lui a pas donné une place de choix pour le bien de la communauté et pour que lui, il puisse s'épanouir? C'est ça, il dit, oh, j'adore cette apparition, je suis un de Saratam, je suis un. Ça, c'est un véritable problème. Le chef de la communauté, il doit être soucieux du bien-être de chacun. Comment ça va toi? Comment ça va toi? Et longtemps que je t'ai pas vu. Ça va? Tout va bien chez toi? Tu travailles? Tu as de quoi vivre? C'est ça la fonction de la daga. Et même souvent, quand même si le chef de la communauté, il a pas les moyens d'arranger les choses, mais au moins, il a le souci. Au moins, il s'inquiète, il s'informe. Il dit, j'espère que ça va bien, le monsieur, il y a longtemps que je t'ai pas vu. Tout va bien chez vous? Ça va le travail? J'avais le truc? J'apprends pas que Hamsomtel il a été licencié ou qu'il a perdu son job, bientôt il a fait faillite. Donc il est soucieux de chacun. C'est ça essentiellement la fonction. D'ailleurs, le roi, le concept de roi, il nous dit la notion de roi, c'est celui qui a le souci du bien-être de chacun de ses sujets. Il est là à faire, à agir et faire en sorte que chacun de ces sujets, il est le bien-être. C'est ça le concept, c'est ça le roi. C'est ça le sens de roi. Le roi, c'est pas qu'apparaît le pouvoir, c'est pas avoir les honneurs, c'est s'occuper de chacun. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir est là. Et là, souvent, le pouvoir, c'est pas une chenille, mais c'est une constatation. Le pouvoir, il n'est pas, ceux qui sont au pouvoir, ils sont pas toujours au fait de leurs devoirs et de leur responsabilité. Donc ça pose problème entre la relation de l'individu et du clan. Comment épanouir? Et c'est une des situations essentielles. C'est-à-dire que si nous disons, après analyse approfondie, que la Torah, et non seulement analyse approfondie, mais en étant convaincu que la solution du, la compréhension du cosmos, du Olam HaGadol, la création globale, la grandeur de la création, et la relation, la compréhension de la place du microcosme dans dans ce cosme-là, comment l'individu, le petit Olam, il va trouver son épanouissement dans le Olam HaGadol, si c'est ça, quel est l'élément, quel est ce système-là qui va me permettre d'harmoniser les deux, de faire la concorde entre les deux, de réaliser comment Shnaim Sheyoshvim, Shnaim Sheyoshvim, Yesh Beneim Divrei Torah, Yesh Beneim Divrei Torah, alors Shechina Sheruya Emaim. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait? Alors Shnaim, c'est simple, simple. Le sens simple. Shnaim, c'est deux. Le Maharal, il dit un, et had, c'est Akadosh Baruch. Shnaim, c'est celui qui est, alors, si le premier il s'appelle Reuven, l'autre, il est différent de lui. Il est différent, il est à l'opposé. Donc, il y a Avram d'un côté, et Yitzhak de l'autre. C'est Avram, Yitzhak, c'est les deux opposés. Ils sont aux antipodes l'un de l'autre. Comment je vais réunir ça? Comment je vais réunir celui qui détient le pouvoir, Rabban Gamliel, le pouvoir établi, le Nassi qui a des responsabilités énormes de l'intérêt global d'Israël, comment il gère avec les Romains, etc. C'est le chef de la communauté qui a énormément de responsabilités politiques, etc. Et chez l'économie, tout ce qu'on veut, d'accord. C'est le chef du gouvernement. Comment il va s'arranger avec le petit individu Kidam qui s'appelle Rabbi Yoshua ben Hanania, qui est lui dans son coin et qui n'a pas de place. On lui a pas fait une place. Comment on fait ça? C'est le Torah. La Torah, qui m'a mis zvot, il est là pour ça. Qui m'a mis zvot, et certaines mitzvot, alors on pourra analyser de quelles mitzvot il s'agit, mais certaines mitzvot, ils sont là pour ça. La relation qu'il y a, comment établir la relation entre l'individu et le Olam HaGadol, la nation juive. Ce qu'on appelle les Olam HaGadol, c'est la nation juive. La nation juive, elle a un intérêt. Le petit individu, il a d'autres intérêts. Alors, comment on fait pour faire l'harmonisation? Et dans l'histoire, Magdoshim a marqué que 80% ils n'ont pas voulu sortir d'Égypte, justement, à cause de ça. Parce qu'ils se sont détachés de la destinée d'Israël. Ils n'ont pas voulu s'intégrer à la nation. C'est pour ça qu'ils sont restés en Égypte. On ne peut être libéré. On ne peut pas être libéré en tant qu'individu. On ne peut être libéré qu'en tant que nation. C'est la définition même de la sortie d'Égypte. Et pas seulement, et sortie, c'est la première étape, mais comme la Alia d'Égypte, qui comme il a dit à Jacob, mais comme Alicha Allo, doublement sorti, et l'enlevé. Allo, justement, c'est l'Égypte, la montée d'Égypte. C'est-à-dire la sortie et la montée. C'est la nation juive. Celui qui se détache de la destinée, il détache son destin de la nation juive, alors il est perdu. Il est perdu. Lui-même, il a coupé les ponts. C'est difficile, il faut le chercher, mais pour le moment, il est loin. Donc, c'est-à-dire que, et c'est ça le concept, les marassés, je vous dis, c'est ça le concept de la conversion. Ça veut dire l'essentiel de la conversion, c'est que quelqu'un, hein, qui n'est pas juif, il associe sa destinée à celui d'Am Israël. Mais non, associer sa destinée, c'est pas juste qu'il porte le drapeau. Il faut aussi que la destinée d'Israël, c'est le Kiyom Torah Mitzvot. Il faut qu'il lui apprenne les fondamentaux de la Emouna avec quelques mitzvot, hamurot, kalot, modiim, lo, mikshat, mitzvot, kalot, hamurot. On lui dit quelques minutes pour qu'il pratique, pour qu'il commence à pratiquer. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc il a à apprendre. Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit au Goy, il dit, attends, je rassure un peu, tu m'apprends la Torah. Il a dit, très bien, pas de problème. C'est quoi le... Mal des années, là, dans les rabbins, il dit, ce que tu peux compter, je ne sais pas, ça veut dire. C'est ça le concept même de la Emouna. La Emouna, c'est ça. Il dit, comme, vous voyez une Gemara à la fin de ma cote, c'est intéressant. La Gemara, elle dit, page... Kav Gimel, il dit ici, la Gemara, elle dit, Garage Rabbi Samlai. 600 extrémités de Némoulo et Moshe Bekinet. Donc, Rabbi Sinaï a dit, il y a 613 millions qui ont été donnés à Moshe au Sinaï. D'accord. Après, il dit, donc il apporte la Torah. Après, Rabbi Amar Rebbe Aravon, Amar Ikra, il dit d'où le passo? Quand lui, il dit pas, il est pas d'accord. Il dit d'où tu sais qu'il y a 613? Il dit parce qu'il y a marqué Torah Tibayano Moshe. On va racheter qu'il y a encore. Il dit, la Torah, Moshe, le mot Torah, le Moshe nous a indiqué la Torah. Torah, ça fait 611. Valeur numérique. Plus deux qu'ils ont entendu directement. D'accord. Vous savez ce qu'ils ont fait. Donc, il y a 613 000 votes à accomplir. 613 000 votes. Après, il y a marqué. Va David, il est venu David, il les a réduits. Il a réduit 613 ans. Il est très fort. Rachid dit, écoutez bien ce qu'il dit, Rachid. Il dit pourquoi? Il dit, chez Bethila, au début, ils étaient tzadikim. Bethila, ayou tzadikim. Ben, yo, yecholim, les kabel, all, mitzvot, arbe. Ils pouvaient faire beaucoup, beaucoup de mitzvot. Aval, Dorot, Aharoni, mais les dernières générations, le Hayou Tzadikim, Kolkar, ils n'étaient pas tellement de Tzadikim. Veimbaou Lishmor, Kula, et s'ils doivent, ils doivent venir observer toutes les mitzvot, En Lecha Adam chez Zoché, il n'y a personne qui réussira. En Lecha, aucun homme ne réussira à garder les 613 mitzvot. Qu'est-ce qu'il a fait David? Il a dit non, stop. Ou pas David, c'est pour ça que David il est venu, il a mis 11. Il les a dit, voilà, c'est 11. Pourquoi? Et dès chez Yimikaïmou, nous d'aller, nous d'aller, au cas, il se et c'est encore charge de rôle. Après, on va continuer. Donc David, il a dit, non, il faut comprendre, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il ne faut pas faire les mises autres. Parce que, regardez le psaume 15, merde, c'est le fameux mizmor les amis, miago, beaolecha, o miishkon, beakotcheha. C'est le psaume 15. Il dit, qu'est-ce qui veut venir à la maison de Dieu? Qu'est-ce qui peut avoir l'honneur, la dignité d'être à côté d'Akadosh Baruch Hu? Alors, il dit, pour elle, Oler Tamim, c'est l'homme qui va dans la Tmimut, c'est-à-dire Tamim, il est honnête. Ou pour elle, c'est qui fait les droitures. Mais Dover Emet, il parle, il dit pas de mensonge, il dit que la vérité, dans son cœur. Le Raga, il est chanon, il dit pas du mal. Le Hassa, il dit pas du mal, il fait pas du mal à son prochain. Le Hassa, le Hassa, il dit pas des méchancetés et des insultes à son. Il veut bien avec lui, Mazeret Hashem Echabet. Lui-même, il est modeste et il craint ceux qui sont, Yireh Hashem, il les honore. Il les honore, c'est un des Hassanifas. Ça, c'est, il y a la Gemara l'explique. Après, il est venu Isaïe, il en a fait trois. Va Ishaïa, Vemidam, à l'arbre. Il est venu, Israël, il les a réduits à 4. Après, il est venu, je sais pas comment il s'appelle, il est venu, Micha, et il a fait 3. Le fameux pasteur, Agid Lecha Adam Matov. Il se dit, mon cher, qu'est-ce qui est bien? Et qu'est-ce que Hachem, il réclame de toi? Il dit, qui m'a fait la justice? Ve'avad Hesed, et aimer la bonté, la bienfaisance. Ve'atzna lechet imeloecha, et que tu sais dans ta relation avec Akadosh Baruch Hu. 3 choses, il dit. Après, il est venu à Amos. Après, il est revenu, Ishaïa, il a fait 2. Et il dit, c'est quoi? Va, Ishaïa, le hasard, le amida, malstaï. Ishaïa, il est venu, il a mis 2. Il dit, quoi, Amar Hashem, Shimru Mishpat, va tout les accords. Gardez la justice, Shimru Mishpat, gardez, observez la justice, et faites le bien. Amos, il est venu, il a fait 1. Va Amos, y'a imadam al-Ahad. Qu'est-ce que c'est l'Ahad de Amos? Il dit, marre, quoi, Amar Hashem, les bêtes Israël? Dir Shuni, Behiou. Recherchez ma présence, Dieu, il dit à Israël, Dir Shuni, cherchez-moi, implorez-moi, priez. En gros, ça veut dire prier. Et vous vivez. La Gemara, elle refute ça. Il dit peut-être dire Shoni, c'est pas la prière, c'est toutes les mitzvot. Bon, c'est pas répondu, mais c'est une option. Et après, il est venu Habakkuk à Navir. Qu'est-ce qu'il dit? Habakkuk, vous savez qui c'est? Habakkuk qui annonce la Géoula. Il dit la Géoula. Il est venu Habakkuk, il a mis dans la hâte. Il a fait une mitzvah. C'est quoi la mitzvah? Tzadik, be'emunato, yahye. Pour être tzaddik, pour avoir droit à la rédemption, il faut être tzaddik, c'est quoi? L'aïmouna. Bon, il faut comprendre ce que ça veut dire. Tout ça, c'est bien joli, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accomplir toutes les mitzvot. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, en vérité, c'est que la délivrance, comme on a dit précédemment, elle n'a pas lieu d'être pour les individus. Pour qu'il y ait la Géoula, il faut, c'est une Géoula de la nation. Maintenant, la nation, qui c'est la nation? À qui il s'adresse? Est-ce qu'il s'adresse à chaque individu ou il s'adresse à ceux qui ont le pouvoir? En fait, il s'adresse à tout le monde. Comment retrouver la relation? Alors, ça veut dire la relation, trouver, avoir une lecture juste de la Torah qui établit la vraie relation qu'il y a entre l'institution nationale, la nation, les institutions, je ne sais pas comment les appeler, l'État, les institutions, comme nous on est en galoute, alors on est chez la communauté, etc., avec la place que la communauté doit faire, doit la place, c'est-à-dire donc toute l'attention que doit porter l'institution, la nation, à l'individu. Donc il faut recentrer l'individu au centre, le remettre au centre. Bien qu'en général, on doit recentrer chaque individu, comprenant que par rapport à chaque individu, la Torah, elle dit que tu dois laisser la place à Dieu. En réalité, quand les hommes y font, Dieu y s'éloigne. C'est quoi la Avera? La Avera, c'est quand l'homme, il prend la place de Dieu. Donc l'homme, il veut s'affirmer, donc il est suffisant, il s'accapare le monde. Les hommes s'accaparent le monde. Ils s'accaparent le monde pour eux. D'accord? Donc c'est comme si un type, comme il est marqué dans le Zohar, c'est marqué dans Rabbi Shlomo Lavi, c'est marqué dans beaucoup de Sfarim Akdoshim. Quelqu'un, il va avoir le pouvoir. Comment il fait? Alors, il fait une institution. À l'époque, c'est quoi l'institution? Les Juifs, ils étaient tous religieux. Tout le monde allait à la synagogue. C'est que c'est pas quelqu'un, même s'il pratique plus ou moins. Mais en public, tout le monde pratiquait. Et tout le monde allait à la synagogue. C'est que c'est pas quelqu'un qui va pas plusieurs fois par dans la semaine. Peut-être pas tous les jours, mais au moins Shabbat dans la synagogue. D'accord? Donc, quelqu'un qui fait une synagogue, il ne se met pas trop. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, la porte dehors de la synagogue, il ne fait pas la synagogue pour rendre service, pour faire la Avodat Hashem, il fait pour lui, pour avoir le pouvoir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait une synagogue, il met un strapontin dans la rue, à la porte de la synagogue, il fait une chaise là-bas. Là-bas, il fait asseoir Dieu. Dieu, tu restes dehors. Comme ça, tout le monde sait que c'est une synagogue. Ils viennent, eux, pour voir Dieu. Donc Dieu, il rentre, il ouvre la porte de la synagogue. Il y a une mezouza, Beta Knesset, J'installe la chaîne, Sadikim Abouvo, c'est la maison de Dieu, etc. Donc il met une chaise, un tabouret devant la porte de la synagogue, il dit voilà, c'est la synagogue de Dieu. Mais à l'intérieur, qui c'est qui commande? C'est le patron, c'est le type là, il commande. C'est lui qui a construit, c'est lui qui a fait, c'est à lui, c'est lui le chef. Il est chef de la synagogue, la vita éternelle. Il est là pour l'éternité, chef. Ça fait marrer, mais à l'époque, les despotes arabes, jusqu'au moment où il y a eu la révolution de printemps, ils étaient là pour l'éternité. Il y en a encore qui sont là pour l'éternité. Ça veut dire, le type, il est là, Moubarak, il est là, il va faire son fils, et après, seulement, ils l'ont viré. D'accord? Bon. Et l'autre, le Ben Ali, c'était la même chose. Tous les despotes, c'était comme ça, ils étaient là, à vita éternelle. Non, c'est bon, ils étaient élus à 99%. C'est la rigolade. Oui, mais c'est la même chose dans les institutions. Ne vous leurrez pas. C'est la même chose dans les institutions. Chacun qui a construit, qui a pris le pouvoir d'une institution, il est là, du temps éternel. Il partira de sa place de président de son leader à son lit de mort, quand il meurt. Et quand lui, il meurt, il est sorti. C'est un héritage. Donc, on ressemble à ça. Alors, ce type-là, il crée ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait celui du pouvoir. C'est moi qui commande. C'est ma maison. Non, j'ai dit qu'il y a une fois, il y avait une histoire de synagogue, il s'est fait une remarque, il m'a dit, si monsieur, c'est ma maison. J'étais étonné, j'étais épaté, j'étais jeune, je ne comprenais rien ce qu'il racontait. J'étais tourmenté pendant des mois, c'est pas des années, de cette expression-là d'un type devant toute la synagogue. Il me dit, au milieu d'une synagogue pleine de gens, il me dit, ici, monsieur, c'est ma maison, c'est à Baït Chéri. C'est Hatsum, ça. C'est, ça m'a, je sais pas, aujourd'hui, j'en suis tourmenté, perturbé. La compagnie, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit? Le soir, il dit, c'est ça, le Dibourim, Hamisha Mine, les cinq sortes de Amalekim, qui a Hamisha Dibourim, cinq sortes de Révra. Exactement. Regardez le gars dans Even Shlema, il développe cette histoire-là. Et le Rabbi Shlomo Lavi, qui était un des Gouréari, donc ça veut dire qu'il a vécu en 1500 avec des poussières. Il a écrit un très gros pirouge sur le de Halakim, sur le premier livre du Zohar, sur le Bereshit, qui a été édité par la famille de notre très cher ami, déjà à Djerba, ils ont édité ça, la nouvelle édition, il y a peut-être 50 ans, 60 ans, par le grand-père de notre ami Rabbi Haïm Peretz, que tout le monde connaît. C'est sa famille qui l'a. Il est dans ce livre là-bas, il dit cette histoire-là. Il dit les gens, ils font une synagogue pour avoir le pouvoir. Ça, c'est terrible. Ça, c'est une erreur. Alors ça, il faut corriger. Ça, il faut corriger. Il acquiert. Si on l'acquiert, on l'accapare, le pouvoir, alors le pouvoir, il est, on se fourvoie, on est dans l'erreur et on va dans le mur. Donc, on va réparer ça. On doit améliorer ça. Le pouvoir, il est celui qui est rabbin, chef de la communauté. Qui, je dis rabbin, je pense à personne. Ça, mon général qui dirige, qui est rave, qui prétend enseigner, la seule chose qu'il doit montrer, c'est de la disponibilité vis-à-vis de tout celui qui, au moins, lui pose la question. D'être disponible, d'être au service d'eux, d'être, et tu veux une bracha, je suis à ta disposition. Tu veux un conseil, je suis à ta disposition. Je pars, mon temps ne m'appartient pas. Mon temps, comme il dit, le Messie de la Tisha arrive à plusieurs reprises, en particulier, je crois, chapitre 11, que celui qui est employé à la journée, il n'a pas le droit de s'arrêter même pour faire la prière. Pourquoi? Parce que la journée entière, elle appartient, le temps entier, chaque minute de sa journée, elle appartient à celui qui le paye. Et je voudrais dire que c'est la même chose, absolument la même chose pour tous ceux qui sont des rabbins. Le rabbin, il est payé par la communauté et il est dans son temps, chaque minute, il est consacré, il doit être disponible pour tous les membres de la communauté. Comme il dit M. Djari. Donc c'est à l'envers, c'est-à-dire en vérité, comme il est marqué dans le Chachamim, il dit que celui qui cherche la fonction, en vérité, c'est un esclavage. Donc c'est ça l'idée. C'est ça. Donc comment on arrive à faire cette liaison à travers chacune des missions? Quelqu'un y met les tchilines, quelqu'un y fait des autres privées particulières. Chaque mitzvah, tu mets tout ça à la porte, tu dis un peu de Gemara, Baba Kama, toutes les chasses, les brachot, les zraïm. Quand je vais commencer à avoir une lecture du chasse, quelle place? Si chasse, c'est Dere Mishnah, c'est les mentions de l'espace. N'oubliez pas que c'est pas des traités, je sais pas de quoi ça parle. Ça parle des six dimensions de l'espace. Et les six dimensions de l'espace, l'espace, c'est l'homme. Donc, quelle place dans cet espace-là il va faire à l'homme? C'est à travers le niveau, c'est à travers la compréhension des textes. Quelle place il fait? Voilà, c'est ça la solution. Comment on va créer une nation? Comment on va créer une nation qui est dans une harmonie parfaite, totale, complète, où l'individu, il s'épanouit. Il est heureux d'être dans cette nation-là. Ça, c'est un grand secret. Il faut être ma'amik très bien. Et je vous fais conclure parce que la Gemara, elle est finie. Amar Rebbe Yehoshua, comment la fin du chasse? Quand on arrive à la fin du chasse, il est quand même tout le monde. Alors, on va à Amar Rebbe Yehoshua ben Lévi. C'est-à-dire, on veut nous apprendre par cette fameuse conclusion, c'est quoi la finalité de cette étude? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Amar Rebbe Yehoshua ben Lévi, l'homme a dit à Kadosh Baruch Hu, Keli ma'azik b'racha el ha'shalom. Rebbe Yehoshua ben Lévi dit, à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas trouvé un récipient, un réceptacle, un keli qui puisse, qui soit digne de contenir la bracha. C'est bien de verser, de mettre de la bracha à quelqu'un, de verser. Tu prends un type, tu dis, je te verse un verre de whisky. Alors, tu vas faire un kiff. J'ai un vin vieux de 300 € extraordinaire. Smith, je sais pas quoi, blanc là, extraordinaire, que quelqu'un pourrait m'en faire un tarnot. Tu bois ce vin blanc là, tu t'envoies. Il dit, mais tu verses et il y a un trou. Alors, tu verses ça à ta couche, je ne sais rien. Il dit, Kelly Marazik Berachin, pour que le. Quel est le. La bracha, elle se verse. Mais où est-ce qu'il y a quelqu'un qui la reçoit? C'est le shalom. Le mot, c'est toujours Kelly Marazik Berachin, il a un shalom. Mais non, le mot shalom, il est faux. Il est faux, ce n'est pas un vrai mot. Il est faux. Il n'est pas traduit correctement. Qu'est-ce que les gens ils traduisent shalom? Shalom, c'est la paix. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la paix. Shalom, ce n'est pas la paix. Shalom, c'est la concorde. C'est l'harmonie, c'est la solidarité, c'est l'épanouissement de chacun. C'est la shlemout. Ce n'est pas la paix quand on dit la paix, on comprend qu'il n'y a pas la guerre. Alors on fait la paix, on a signé la paix, chacun il reste chez soi. Ce n'est pas ça. C'est la concorde, c'est l'épanouissement, c'est l'harmonie. C'est quelque chose qui va. La bracha que Dieu y remplit dans le verre, elle est le verre, il n'est qu'un verre. Mais cette bracha-là, elle s'amplifie par le verre. Elle se bonifie, elle se développe. C'est ça. Comment j'arrive à ça? Alors, recommence. Même à ta corim et timabar, il faut. Quand tu as fini les chasses une fois, donc ils reviennent de finir il y a quelques mois, d'Afayomi, ceux qui l'ont fait. Donc, ils viennent de reprendre. Donc, à quoi ça sert de. Tu as fait une fois, tu refais, pourquoi faire? C'est parce que la première fois, tu as juste eu. Maintenant que tu es arrivé à la fin. T'as lu la dernière phrase du chasse, l'homme attaque, kadosh baruch ukeli mahazik beracha ela shalom. Ah, maintenant tu peux recommencer à lire, parce que maintenant tu sais pourquoi il faut lire. Pourquoi il faut relire? Tu dois atteindre cette harmonie-là. Donc la Torah, elle est donc le moyen, l'outil par lequel la kadosh baruch il a créé le monde. Alors quel monde? Le immense monde de la terre. Et le microcosme. Les deux, il a créé. Et tout ça, où ça se retrouve? Alors, comment je vais comprendre ces deux mondes? Ça se retrouve dans le Bétamigdash. Dans la nation juive, Bétamigdash étant l'institution unificatrice de la nation juive. Et c'est ce qu'il a dit, Bétéré, Adal, Bétéré, Bahem, Torah, Tchibahem, Livreau, Chambar. Donc, c'est ça. Donc, si tu lis la Torah, tu vas arriver à harmoniser les éléments, l'intérêt individuel par rapport à l'intérêt général. Comment on arrive à faire? C'est ça ce qui est marqué ici. Il y a deux qui sont assis, ils discutent pas. Alors maintenant, ils discutent pas, ils font quoi? Ils se taisent, ils parlent pas, ils n'ont pas de relation. Ils n'ont pas de relation. C'est-à-dire quoi, ils n'ont pas de relation? Ils sont séparés. Chacun pour soi, ils sont assis, mais ils n'en relèvent pas. On n'échange pas. Rien. Arrêtez Moshav Leti. C'est considéré comme un Moshav Leti. C'est quoi un Moshav Leti? Un Moshav Leti, le concept du let, c'est le type qui joue perso et qui est près de se moquer. C'est pas un let, c'est un autre. C'est-à-dire, il se moque de tout le monde pour se faire une place. Alors, comment? Alors, comment je me fais une place? Alors, je vais me moquer de l'un, de l'autre. Tout le monde va rigoler. Ils vont venir m'écouter. Donc, je me fais une place. Il dit, le seul fait de ne pas échanger une retourne, ils disent rien. Ils disent, Rachid, comme le Tim Chan, il dit, tu vois pourquoi tu les appelles? Je ne vois pas pourquoi tu les appelles, mon cher. Mais si, ils sont emmenés. Ils disent mot. Ils disent pas de mal, ils disent rien. Ils sont assis ensemble, ils ne parlent pas ensemble, c'est chacun pour toi. C'est ça ce qu'on commence à appeler mon cher, l'être, parce que chacun, il se sépare. Chacun, il n'est pas solidaire avec l'autre. Il ne cherche pas d'établir un lien avec l'autre. Donc, il est tout perso. C'est ça, déjà, mon cher, j'ai fait qu'on est assis les deux. On est. Au délice, on boit un café, on discute pas. Ça veut dire, tu m'intéresses pas, je te regarde pas. Discute pas. C'est le mot chabetit. Chacun, c'est le monde de l'égoïsme. Ah bah, Shnaïm, c'est au juif, benéli, c'est toi. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit, Shekhina? C'est rouillé, benéli. C'est qu'on va faire une place à la Shekhina. Dans mon monde. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il est dans le monde. Mais dans ton monde à toi, un perso individuel, je répète tout le temps depuis 30 ans cette histoire-là, quand je pose des questions un peu provocatrices, je dis où il est Dieu? Ah, il est Dieu, il est partout. C'est que tout le monde connaît les mots de passe habituels de la religion. Je dis, je ne vois pas que Dieu, il est partout. On m'a dit, comment? Tu ne crois pas que Dieu, il est partout? Donc, on commence à chauffer un petit peu, à provoquer. Je dis, en tout cas, toi qui me dis, Dieu, il est partout, mais moi, je vois comment tu te tiens, je vois que Dieu, il n'est pas là. Du coup, regarde comment tu dis. Dieu, il est là. Dieu, c'est la puissance. Et j'aurais eu la Irata Romomo. Je ne peux pas bouger. Je commence à trembler doublement. Je me tiens, au moins, je me tiens Bira, Béhéma, Bézé, c'est au Breté. avec effroi, avec modestie, avec crainte. Je ne vois pas quand tu as les pieds croisés, tu te fais un kiff, tu dis ce que tu as envie, où est Dieu? Donc Dieu, il n'est pas là. Alors où il est Dieu? Alors Dieu, il n'est pas là. Dieu, il est dans son monde, c'est certes. Mais la question, elle est, où il est Dieu dans ton monde, dans le monde que toi, tu te fabriques? Est-ce que dans le monde que toi, individu, tu te fabriques, est-ce que Dieu, il est présent? La même chose. C'est la même histoire pour celui qui a construit la synagogue et il a mis Dieu sur un serpentin devant la porte. Il dit, la synagogue, si quand je rentre à la synagogue, je sentais la présence de Dieu, ça se saurait. Eh ben non, je ne sens pas. Je rentre à la synagogue, je rentre. Malheureusement, maintenant, ça fait un moment que je ne suis pas rentré. Mais si vous rentrez à la synagogue, on rentre, on ne sent rien. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien de spécial. On va, on s'assoit, on arrive un peu avant Minha, on discute un coup, on entame un peu la discussion, on dirait qu'on est au café. Donc on ne sent pas. Pourquoi? Parce que nous, c'est nous. C'est Dieu, il est où? Il est dans le monde, là où toi tu le fais venir. C'est ça la définition. Dans le monde, Dieu, il est là où toi tu le fais venir. C'est toi qui dois apprendre comment en te réduisant, en étant modeste, en ayant Tchirina Benéhem. On accepte d'écouter l'autre, on accepte de changer d'avis, on est matoun badin, on n'a pas des avis arrêtés, inflexibles surtout. On est prêt à faire des compromis, on est prêt à partager, on est prêt à changer d'avis. On n'est pas sectaire, bloqué dans un système. C'est ça la vérité absolue, les autres c'est rien, etc. Tout ça, c'est des systèmes où Dieu il n'est pas. Où Dieu il n'est pas d'accord avec ça. Dieu il est d'accord avec l'harmonie, avec la concorde, etc. Donc ça c'est l'histoire, comment on lit la Torah. Et on doit changer notre vision, nos certitudes. On doit se remettre en question. J'ai vu dans un site aujourd'hui que Rabbi Tzach Yosef Shlita, il a écrit une lettre à un Rosh Yeshiva, je ne sais pas comment il s'appelle, il a dit que nous devons nous remettre en question vu la situation, etc. Magnifique. Il n'a rien dit de spécial, mais la vérité, Mehilan Mikotorato, qui commence à faire l'analyse, qui commence à nous classer les pions, qui commence, si tu veux, à nous montrer là où on doit, que c'est l'ensuite, comment. Ça veut dire, on sait bien qu'on doit se remettre en question, mais où on doit cibler? C'est ça ce qu'on demande. Ça fait depuis Pourim, j'ai écrit ça. J'ai écrit dans un message, j'invite nos grands rabbinim à nous montrer l'exemple. J'invite, je leur demande à nous montrer l'exemple, comment on doit faire, parce que c'est cette histoire-là. Depuis Pourim, j'ai écrit ça. Et j'ai pas trouvé de réponse. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui va me dire, voilà, nous devons. C'est du classique, on doit faire tout. Il ne faut pas parler la Shonara, il faut malgré tout étudier la Torah, il faut faire bien. On doit faire la Tfila, on doit être mitrashé avec Baïmona, c'est du classique. Mais ça, c'est rien de nouveau. Ce n'est pas pour ça que nous avons cette catastrophe qui nous fait tomber dessus. Ce n'est pas pour ça. C'est qu'est-ce qui est. Tellement, et je ne vois pas en quoi on s'est tellement amélioré d'ailleurs de toute cette histoire-là. Donc il y a une révision. Donc on est un peu perdu. Comment réviser? Quels sont ceux qui vont avoir le discernement et la clairvoyance pour nous dire qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que réellement il faut rétablir? Et il est certain que je pense que le fait qu'on soit confiné, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, je l'ai écrit ce matin quelque part, Akadosh Baruch Hu, il veut de manière, pour moi, de manière certaine et évidente, replacer l'individu au centre du système. C'est l'individu, le kidam, le type insignifiant, le chacun d'entre nous, il doit être replacé au centre du système. Et c'est ça ce que la situation, elle nous montre. On m'a envoyé une photo cette semaine, du premier shiur du Gaon Rabbi Asher Arieli, un des plus grands maddis des shiur à Mir. D'habitude, son shiur, il est mefoutsas, il y a des dizaines de shiurim, il donne, les shiurim sont à Mir, 9000 élèves, et il y a un monde. Alors, il y a une photo où tu vois le rabbi, il est debout sur le standard, un bêta midrash, un homme de 500 ou 600 personnes vivent. Et ils enregistrent chez. Il y a une autre photo que j'ai vue. Rav, le grand Atoum, Rav Gershon Desha, le Shiva Konevit, Rav Anshat Israël, il est là, il fait un chiot, il est seul dans son bureau. Ça veut dire que, qu'est-ce que je vois de là? Je vois de là que la gadloute de cet homme incontestable, c'est des individus d'une dimension extraordinaire, connaissance de la Torah. Ils sont des individus hors normes, ces gens-là, ils sont des exemples à suivre. Et ils sont là, des simples individus. Le Gaon adore Rav Gershon, mais Einstein, il est assis dans un bureau, il fait un show au mur, seul, une vidéo. Où sont les élèves, où ils sont? C'est ça, la gadoue. Ça veut dire qu'on a replacé le Rosh Yeshiva Gadol, je ne sais pas que de lui, au niveau de l'individu. Et si ça, c'est valable pour le Gadol Ador, alors c'est aussi valable pour chaque individu. À Kadosh Baruch Hu, il replace l'individu au centre. Il est confiné, ça veut dire qu'il se retrouve seul avec lui-même. Que toute l'illusion apparente de l'importance et du pouvoir et de la hachiboud et de le kavod, etc., tout ça, c'est illusion. En vérité, qu'est-ce qu'il est? Il est un simple individu assis seul dans une chambre. Et on replace l'individu au centre du système. Et peut-être que tout le système, il est à revoir. Peut-être que toute notre approche de ce système-là, il est à mettre à plat et à revoir. Et ça, il est à méditer, encore à réfléchir et à raffiner, de sorte qu'on arrive à trouver le lien qu'il y a entre la place du simple individu et la place de la nation. Comment la nation va s'épanouir grâce à l'épanouissement de chacun. Et c'est en vérité, sachez que c'est ça le yesod de la halakha. Si on veut comprendre le fondement de la halakha, qu'est-ce que c'est la halakha? La halakha, c'est la mise au quotidien dans la pratique de la émouna. C'est-à-dire que la émouna, c'est quoi? Il a dit Habakkuk Sadik, Be'emunato, Yahye. Ça veut dire qu'il y a la nation juive, elle vit sur la émouna, c'est le pilier de la nation. Et quelle est cette halakha-là qu'il faut mettre en application? C'est le quotidien. C'est-à-dire, c'est quoi la émouna? Tu mets le tulip. Je, kola shana halakhot bechol yom, t'as reçu par un peu, celui qui va dire une halakha tous les jours, deux halakhot. Alors, il va faire ben alama, c'est-à-dire, il fait progresser le système. C'est quoi la progression? C'est ce qu'il dit, Habakkuk. Pas comment il s'appelle? Habakkuk, je crois. Habakkuk, il dit, adikri alikhot et la, alikhot olamo. Comment un type, il arrive à olam alikhot? Il faut qu'il marche, il avance, il progresse. Et on a le chacham, ils ont dit, ne dis pas, il progresse, dis alakhot. C'est quoi la progression? Cette progression-là, de l'individu dans le monde. Alors, elle est dans la pratique de la halakha. La pratique de la halakha, elle n'est pas un fardeau et une soumission. C'est au contraire, je vais l'apprendre de manière comme étant un fardeau, une soumission. Elle est une évolution, c'est une progression vers le meilleur. C'est ce qui veut dire tout ça, le concept même de la halakha. Donc, quand on fait la halakha, la halakha, elle est justement ce qui va nous permettre de. Halakha, ça veut dire relève. C'est la progression. C'est l'avancée, l'ascension. C'est ça, comment pratiquer la halakha dans un sens progressiste, de progressant, un vecteur d'épanouissement de chacun et de pour l'intérêt général. Bon, j'ai fait un tour d'horizon. J'espère que c'était clair. S'il y a des questions, j'ai déjà pas vu l'heure. Il est 4h10. Si vous avez des questions.
Michel, tu as dit que quelqu'un qui ouvre une synagogue, il dit c'est chez moi, je suis patron, je suis.
J'ai pas dit, ça peut arriver. J'ai dit qu'il y a un cas comme ça qui est marqué là-bas. Ah. Ça aussi, ça existe.
Ah. Oui, bien sûr. Mais au fond, dans une synagogue, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dirige le cal.
Pas qui dirige. Pas celui qui dirige, comprends. Celui qui dirige. Le Hazan, la Gemara, elle dit, c'est quoi Hazan? C'est celui qui dirige.
La prière.
La synagogue s'appelle Hazan. Pourquoi il s'appelle Hazan? Il dit parce qu'il regarde. Il regarde les besoins de chacun et il y pourvoit. C'est ça, il fait pas ça pour lui, il fait pour le bien de chacun. Que chacun, il y retrouve son compte. Bon, avec le pouvoir, c'est difficile, tout le monde, c'est très difficile. C'est essentiel que comme il y a marqué dans la lune cette semaine, il faut le pouvoir, il est d'une énorme difficulté, il faut savoir avoir la fiata de pratiquer le pouvoir avec de manière désintéressée pour le bien les Hamas Hashem et pour le bien de tout Israël. C'est ça le but. Et là, dans les synagogues, dans les uns, les autres, on ne sait rien, je ne veux pas rentrer dans les détails.
Ok.
C'est que ce n'est pas toujours le cas.
Ok, j'ai compris.